Vous écoutez Indiscopie.
Indiscopie, c'est l'émission qui tend son micro à ceux derrière les jeux vidéo. Il est l'heure de l'épisode 3 d'Indiscopie, une rencontre avec Vincent, passionné de jeux vidéo. Il s'est lancé dans le milieu avec son premier jeu mobile, Somewhere.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux te présenter déjà ?
Oui, alors je m'appelle Vincent, je suis développeur indépendant de jeux vidéo. J'ai sorti à mon actif un jeu vidéo qui s'appelle Somewhere sur mobile, un jeu narratif. Et puis une application qui s'appelle Rouenigma de visite interactive du centre historique de Rouen.
Quel âge tu as ?
J'ai 40 ans.
40 ans ? Putain, tu les fais pas du tout.
Ben merci. C'est grâce à mon hygiène de vie, irréprochable.
Alors ça c'est faux, je sais pour connaître beaucoup de développeurs que c'est faux.
Oui, ok, j'avoue c'est faux.
Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans le jeu vidéo Ça a été tôt ou...
Alors déjà en fait c'est pas mon métier. J'ai développé Somewhere pendant mon chômage. Et en fait du coup moi je suis développeur logiciel, c'est ma formation. Et donc j'ai jamais bossé dans l'industrie du jeu vidéo. Et je me suis lancé dans le développement de Somewhere qui a pris beaucoup de temps. Qui a pris un an et demi, sachant qu'on a fait une pause de 2 ou 3 mois à un moment donné parce qu'on en avait marre. Et puis on pataugeait un petit peu et on cherchait un éditeur à ce moment-là. Donc on avait fait une pause. Et comment je me suis lancé là-dedans ? J'ai eu l'opportunité d'être au chômage, comme je te disais. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais pour moi c'était vraiment une chance. Parce que ça faisait 10 ans que je bossais à Paris dans une boîte de logiciels en gros. Et je m'emmerdais un petit peu, j'avais un peu fait le tour. Et puis j'en avais marre aussi de la vie parisienne. Et donc voilà, je voulais changer de vie, quoi. Donc j'ai eu l'occasion de faire partie d'un plan de licenciement. Je me suis porté volontaire, j'ai remué ciel et terre pour partir. Et donc du coup, je suis parti avec les 2 ans de chômage qui te permettent du coup, de faire quelque chose, de tenter un truc, quoi.
Et pourquoi ça, du coup ?
Pourquoi Somewhere ? Pourquoi un jeu narratif comme ça ?
Pourquoi un jeu tout court, déjà ?
Pourquoi un jeu tout court ? C'était un rêve de gosse, tu vois, un petit peu, toujours. J'ai eu, comme beaucoup de gens, une console entre les mains quand j'étais gamin. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire, c'est trop bien. Et puis c'est ça que j'ai pas fait, parce qu'en fait, j'étais un petit peu feignant à l'école. Donc, j'ai quand même fait du développement, tu vois, mais j'ai pas fait des études... qui me permettrait de rentrer dans un studio. Enfin, les places sont assez chères quand même. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que après Somewhere, parce que du coup ça me paraissait simple. Il n'y a pas de graphisme. J'étais tombé sur Lifeline un an avant de partir de la boîte dans laquelle je bossais. J'étais déjà en train de chercher un projet. Et je suis tombé sur Lifeline. J'étais en vacances dans le sud l'été, dans mon hamac, dans la Drôme. Alors la Drôme c'est super joli, parfois on se fait quand même un peu chier. Et du coup je cherchais une idée et je suis tombé sur Lifeline. Et donc tu connais, j'imagine. Ouais.
Mais je veux bien que tu expliques.
Alors en gros c'est un jeu textuel, un jeu narratif à embranchement sur mobile. C'est un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais au format numérique. Il n'y a pas d'image, c'est que du texte. Et en gros ça se présente sous la forme d'une application de SMS. Et on dialogue avec un personnage et on peut faire des choix de réponses qui du coup nous emmènent dans un embranchement narratif ou un autre avec des conséquences. Et donc je suis tombé dessus et ça m'a vachement plu. Je me suis dit que c'était vachement bien et puis que ça devait être facile à faire, naïf que j'étais. Puis je me suis dit ça c'est quelque chose que je pourrais faire tout seul parce qu'il n'y a pas besoin de graphiste, j'ai pas besoin de m'associer. C'est un projet
abordable.
Abordable, voilà.
Et finalement, ça n'était pas tant que ça.
Finalement, c'est beaucoup plus compliqué qu'est-ce que ça peut paraître, ouais, clairement. L'écriture non linéaire, écrire une histoire en branchement, sans se perdre, avec des choix qui ont des conséquences qui sont visibles pour le joueur, qui font sens dans l'histoire, faire en sorte que, quel que soit le chemin que le joueur a pris, il y ait une cohérence. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça peut paraître. Ouais.
Et justement, comment tu t'es organisé ? Tu commençais par une branche principale et tu divergeais à certains endroits ou...
Alors, moi, j'ai fait... on était deux sur Somewhere. Moi, j'ai fait le développement. Donc, je me suis occupé du moteur narratif, en gros, du développement pur. Et puis, je me suis associé avec un ami, Thomas, qui est l'auteur principal de Somewhere. Même si, en fait, c'était un travail collaboratif... C'est-à-dire que lui, il écrivait, moi, je testais ce qu'il avait écrit. Alors, je n'étais pas vraiment au courant de l'histoire pour avoir un regard un peu neuf,
un peu neutre,
ouais, sur la chose. Et puis, donc, du coup, je faisais des remarques, on réajustait, on avançait comme ça de manière itérative. Bah, l'organisation, c'était assez bordélique, à vrai dire, parce que, en fait, c'est la première fois qu'on faisait ça. Donc, je pense qu'on a fait toutes les erreurs possibles.
Parce que lui, il venait de quel milieu
Alors Thomas, lui, il est développeur web, en gros, voilà. Et mais c'est un littéraire, quoi. C'est un littéraire. Il lit beaucoup, il réfléchit beaucoup, il réfléchit trop. Non, mais en fait, voilà, il n'a pas de background spécifique en écriture. Mm-hmm. Même s'il a écrit, étant plus jeune, il a écrit des nouvelles, des choses qu'il n'a jamais publiées, quand même. Donc il avait un goût pour la chose, mais pas de manière professionnelle, quoi. Donc on a tout fait un petit peu, on a appris un peu sur le tas, à vrai dire. En gros, on avait quand même un schéma scénaristique global, tu vois. Mmh. Voilà, donc on savait qu'il y avait un début, une fin. Et Somewhere, ça se prend un peu sous la forme d'un road trip. C'est un bon pattern, c'est un bon modèle pour écrire. Parce que du coup, on se dit, ok, elle est là, l'histoire se termine là. En fait, elle pourrait passer par là, elle pourrait passer par là, elle pourrait passer par là. Et donc du coup, voilà, ça nous donnait quand même une trame pour raconter différents embranchements en fonction de par là où elle passait, les gens qu'elle a rencontrés, ainsi de suite.
Alors justement, l'histoire de Somewhere, en gros, qu'est-ce que c'est ?
Alors en gros, donc je dis elle parce que le personnage principal, c'est Kat, l'héroïne. Donc c'est une journaliste, c'est un polar en fait, et elle se retrouve traquée par la NSA, en gros, parce qu'elle a un ami qui lui a transmis des documents un petit peu confidentiels sur une boîte, et ce mec-là disparaît, et puis elle se rend compte qu'elle est espionnée, et puis voilà. Et en gros, c'est un peu une chasse à l'homme, et donc nous, on est de l'autre côté du téléphone, et elle contacte le joueur par erreur, et puis bah, finalement, on fait des choix, on discute avec elle, on l'aide. Voilà, et il faut l'aider à survivre, à mener l'enquête, à aller au bout. Voilà. Et puis on rencontre également d'autres personnages dans le jeu.
Et alors, au niveau du gameplay, il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien. Vous utilisez la géolocalisation, vous utilisez Maps, vous utilisez aussi le temps d'attente.
Oui, quand on parle avec le personnage et qu'on lui dit bah, fais ci ou fais ça, et bah, il va aller faire le truc en question. Et puis parfois, ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures. Et pendant ce temps-là, on n'a pas de nouvelles. Donc c'est pas un jeu où on choisit quand on joue. C'est-à-dire qu'il y a ce temps d'attente, là, on n'a pas de nouvelles, on peut rien faire, on peut plus avancer dans l'histoire. Et puis, quelques temps après, on va recevoir une notification, comme si on recevait un texto. Et là, du coup, on peut répondre et l'histoire peut reprendre. On n'est pas obligé de répondre dès qu'on reçoit le message, hein. Ça va se mettre en pause, entre guillemets. Mais voilà. Et donc ça, c'est... en gros, Lifeline, c'est ça, plus donc, des dialogues avec à chaque fois deux choix de réponse. Moi, quand j'ai joué à Lifeline, j'ai trouvé ça vachement bien, mais j'ai quand même noté des contraintes, des choses que moi j'aurais aimé voir et donc qu'on a rajouté dans Somewhere. Donc dans Somewhere, déjà, il y a plus de choix de réponse, donc c'est beaucoup plus pénible à écrire parce que voilà, il faut qu'à chaque fois la réponse soit cohérente en fonction de ce qu'on vient de raconter, enfin de dire, comme, enfin du choix qu'on vient de faire. Et puis il y a la géolocalisation, effectivement, ça c'est pour un peu l'ambiance, parce que du coup le joueur à un moment donné, lui aussi, il est contacté par un service secret un petit peu obscur comme ça, qui va commencer à essayer de l'intimider. Voilà, on utilise la géolocalisation pour ça. On utilise Google Maps ou Maps sur iOS parce que parfois Kat elle est paumée, elle est pourchassée dans les rues de Berlin ou de, par exemple, et puis elle est paumée, il faut l'aider. Donc il faut aller en Street View, il faut aller, elle nous dit bah voilà, je suis là, par où je vais, je dois aller là, voilà. Donc là on dit ça, et puis il y a également une autre mécanique où en gros on va aller faire chercher des informations aux joueurs sur internet, des vraies informations qu'on trouve sur Wikipédia essentiellement. Donc là c'est quand on doit aider Kat à faire des recherches sur des documents, alors elle s'isole, alors toujours est-il qu'en gros elle se retrouve à prendre un Nokia, un vieux Nokia qui n'a pas de géolocalisation, qui n'a pas de data parce que c'est plus sécur pour pas trop se faire pister. Elle se retrouve sans vraiment moyen de recherche numérique parce que c'est un fil à la patte. Et donc voilà, donc nous on est à l'autre bout et on l'aide. Donc on doit parfois faire des recherches pour elle, en gros, pour l'aider à s'orienter dans des documents qu'elle a pour avancer dans l'histoire. Et donc là, il faut aller faire des recherches sur Internet, sur Google, sur Wikipédia, et puis trouver des mots-clés, lui donner des réponses. Ouais.
L'histoire, elle est assez engagée. Il n'empêche t'empêche dans Somewhere ? Protection des données, anonymat.
C'est vrai. Bah, en fait, on avait envie de raconter, de parler de ça, quoi, je pense, avec Thomas. Donc, ça parle notamment de la surveillance de masse. Et en fait, on a été, nous, assez bouleversés en 2013 par la révélation Snowden. Avec Thomas, et puis on en a beaucoup parlé, et puis du coup on avait envie de parler de tout ça, et puis voilà, je sais pas, ouais, effectivement je pense qu'on est un petit peu engagé politiquement, même enfin engagé, on n'est pas affilié à un parti, on n'est pas, bon bref, on est des citoyens, on se sent un petit peu concernés par ces choses là, donc voilà, on avait envie d'en parler.
Je vais y arriver.
Oui.
Moi aussi, je suis fatiguée.
Une deuxième cafetière, s'il vous plaît.
Le jeu vidéo, pour toi, ça a commencé à quel âge ? Quelle console ? Le premier souvenir, c'était quoi ?
Bah, je pense que ça devait être Tetris sur Game Boy.
Ah ouais ?
Ouais. Bah, je t'ai dit que j'étais vieux. Ouais, Tetris sur Game Boy, je sais pas, ça devait être. Après, moi, j'ai eu des parents qui étaient foncièrement contre les jeux vidéo, donc ça a toujours été un combat pour ramener le jeu vidéo à la maison, et donc on a toujours eu les consoles, enfin voilà, on y a eu accès assez tardivement, quoi. Donc la Game Boy, on avait économisé avec mon frère, tu vois, les sous de Noël et tout ça, et puis on était allé acheter dans une boutique à Rouen la Game Boy, tu vois, en secret. Enfin, c'était vraiment, c'était tout un truc, quoi.
Et quand vous l'avez ramené, c'était toujours sous la couette en scred ou...
Bah non, mais bon, voilà, après c'était un petit peu dans le fait accompli, ils n'ont pas eu le cœur de nous l'interdire, mais ouais. Premier souvenir, c'est ça. Mm-mm. On a eu la NES. Et puis on jouait chez les copains beaucoup. Mmh. Et puis 2-3 ans, voire 4 ans après, après tout le monde, on finissait par avoir la console, tu vois. Disons que ouais, moi je me nourrissais beaucoup de cet univers-là chez les cousins, chez les amis. Et puis après j'ai eu des grosses claques comme Flashback par exemple sur Super NES, oui. Qui m'a retourné, quoi. Voilà, ce genre de choses qui me faisait dire ok, un jour je voudrais essayer de faire ça.
Ça doit être un sacré accomplissement de sortir son premier jeu.
Ouais. Alors, ça s'est fait quand même dans la douleur. Hein. Parce que c'était vraiment compliqué. Moi, j'ai jamais autant bossé de ma vie que quand j'étais au chômage et quand j'ai bossé sur ce Somewhere. Et puis, c'était vraiment dur parce que... même si je savais pertinemment qu'il y avait des erreurs à pas faire, c'est-à-dire... pas cruncher, pas se griller, faire une vraie séparation entre la vie perso, le boulot et ainsi de suite. Comme bah, j'étais au chômage et que je bossais chez moi, c'est un peu compliqué.
C'est très compliqué.
Et donc en gros pendant un an et demi, j'ai fait que ça, j'ai pensé qu'à ça, voilà. Et à la fin j'étais juste épuisé, quoi.
Oui, forcément. Puis en étant que deux aussi.
Oui, et puis c'était notre premier jeu vidéo qu'on faisait ensemble. Thomas, il avait participé à au développement d'un jeu indé avant ça, qui était sorti sur Steam. Une sorte de jeu 2D en pixel art, un peu post-apo, voilà. Qui avait eu son petit succès, qui était très sympa. Moi, c'était vraiment mon premier projet. Clairement, on n'avait jamais fait ça, quoi. Lui, il n'avait jamais écrit d'histoire en branchement. Moi, j'avais jamais essayé de développer un moteur et pris la mesure de tout ce qu'il faut savoir faire quand on est indé et qu'on veut sortir un jeu, quoi.
Mmh, oui, parce que du coup, tu as développé le moteur depuis la base, quoi.
Ouais, alors en fait, j'ai réutilisé un logiciel open source qui s'appelle Twine, qui permet d'écrire...
De faire des histoires en branchement.
De faire des histoires en branchement. Et c'est un logiciel qui est open source. Donc je suis parti, en gros, j'ai forqué un petit peu ce... J'ai modifié ce moteur-là pour l'arranger à ma sauce et puis faire quelque chose qui puisse tourner sur mobile, voilà.
D'accord, ok. Et du coup, vous avez trouvé un éditeur ou vous êtes en auto-édition, on va dire ?
On a trouvé un éditeur, on a été publié chez Plugin Digital, sur le label Playdius. Si c'était à refaire, je le referais pas. C'était juste... ils ont pourri notre projet, quoi.
Ah oui ?
Ouais, ils sont adorables, hein. Mais ils sont nuls à chier. Okay. Tu peux le garder, hein, je m'en fiche. Alors en plus, si tu veux, on a fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour suivre un petit peu des développeurs indépendants sur Twitter, parce que le monde du jeu indé, donc toi tu le connais un petit peu, même bien, c'est, c'est, alors là, c'était vraiment, vraiment super. C'est que c'est un petit milieu, en tout cas en France, et où les gens sont d'une bienveillance et d'une gentillesse, c'est incroyable, quoi. Et en fait, je pense que c'est tellement dur, si tu veux, de sortir un jeu déjà, et puis alors d'en vivre, alors là, c'est le summum, tu vois. Je sais pas, il y a une communauté super bienveillante où les gens s'entraident, se donnent des conseils, ainsi de suite. Et donc voilà, bon, nous, on avait au début pour parler de Somewhere et puis essayer de faire en sorte que les gens sachent que le projet existe, ainsi de suite. On s'est mis sur Twitter. Thomas y était déjà depuis un petit moment. Moi, je me suis mis sur Twitter à ce moment-là. Donc, 2016, tu vois, genre early adopter, comme on dit. et donc, on s'est mis à suivre des studios, des développeurs indés. Et donc, on savait que quand tu signes un contrat avec un éditeur, eh ben, il faut contacter les développeurs qu'on bossait avec cet éditeur, leur demander leur avis. Il faut faire relire le contrat par un avocat, tout ça. Sauf que voilà, humainement, ils étaient tellement sympas, ils avaient l'air tellement honnêtes. On s'est pas méfié, en plus, je pense qu'ils le sont, si tu veux. Ils sont juste incompétents, quoi. Et voilà. Enfin, il a fallu qu'on demande plein de fois, qu'on les harcèle. C'était... En fait, c'était. Moi, avec Thomas, du coup, Thomas, il faisait l'écriture. Et. Bon, c'est un processus créatif qui est, voilà, je veux dire, c'est super...
C'est fastidieux.
C'est super fastidieux, quoi. Je veux dire, moi, en plus, qui ai une tendance à être un petit peu, comment dire, perfectionniste, j'imagine même pas écrire un truc, tu vois, parce que je passerais mon temps à le modifier. Alors du coup, écrire 40 000 mots, écrire un roman de 150 pages, tu vois, quasiment, avec des embranchements, enfin, je veux dire, je pense que j'aurais pété un câble avant la fin. Donc moi, du coup, je faisais le dev et je faisais un petit peu, même si on en parlait beaucoup, on était toujours en contact sur les décisions qu'on prenait, je faisais un petit peu tout le reste, c'est-à-dire par défaut, quoi. Mais du coup, j'essayais d'établir un planning, comment on sort, quel modèle économique, comment on fait pour communiquer, enfin tu vois, genre, ok, faut qu'on fasse un press kit, faut qu'on ait un site, enfin tu vois, penser à tous ces trucs-là.
Qui sont normalement dévolus à l'éditeur.
Bah ouais, alors toute la partie com, marketing, visibilité du jeu, clairement, c'est leur job, quoi. Et puis ça, et quand t'es sur une plateforme mobile Android ou iOS, mais c'est un peu pareil partout, c'est avoir le fameux featuring, quoi. C'est-à-dire être mis en avant pendant un laps de temps donné, voilà, sur la home front, sur la home page de l'Apple Store ou du Play Store. En tout cas, voilà, avoir une visibilité, ça c'est leur job. Et en fait, c'est leur job aussi pour la localisation du jeu, et ainsi de suite. Et chacune de ces étapes où ils devaient assurer le boulot, moi j'ai pris l'éditeur parce qu'en fait, j'étais arrivé à un point où je me disais, ok, on n'a aucune expérience au niveau du modèle économique, au niveau de quand est-ce qu'on sort, tout un tas de décisions comme ça. On va prendre un éditeur parce qu'ils vont nous aider. Et ok, on va leur filer 30%. Mais ils vont nous aider, en fait ça va être bénéfique pour le jeu, voilà. On a longtemps réfléchi, on a contacté plein d'éditeurs, pas que des éditeurs français. Et puis en fait, bah, quand on a bossé avec Plugin Digital, désolé mais c'est la vérité, bah, en fait moi plutôt que de me décharger du boulot, ça m'a remis, si tu veux, une charge mentale de ouf. Parce qu'en plus de devoir gérer tout ce que je pensais devoir gérer, il fallait maintenant que, tu vois, je contrôle ce qu'ils faisaient, quoi. Et en plus du dev et de l'écriture avec Thomas et tout, quoi. Et à chaque fois qu'ils avaient un truc à faire, il fallait que je les relance, il fallait que je check. Quand ils me demandaient un fichier ou un truc ou le kit de localisation, je leur envoyais 15 fois, tu vois, parce qu'ils sont pas organisés. Tu leur files un lien, un Google Sheet, et bah ils gardent pas le lien, tu vois, donc ils te le redemandent. Enfin, je veux dire, c'était, voilà. Et tout a été, à chaque étape à laquelle ils ont contribué, bah il a fallu refaire. C'était mal fait, pas dans les temps, enfin c'était, voilà. Et donc du coup, une expérience, c'était vraiment triste. Alors en plus, si tu veux, Somewhere, on a un peu plus de 500 000 joueurs aujourd'hui. Ouais. Et en fait, on a été mis en avant de manière native par l'algo d'Android sur le Play Store, parce qu'on avait mis une bêta publique quand on cherchait un éditeur, pour que les éditeurs, ils aient juste à cliquer sur un lien et ok, ils le téléchargent et puis ils peuvent tester, nous dire ok, on bosse ensemble ou pas. Cette bêta publique, du coup, tout le monde pouvait y accéder. Et en fait, les gens sont mis à la télécharger. J'ai remarqué ça un jour, je sais pas, je checkais, mais toi, vraiment comme ça par curiosité. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a eu 15 téléchargements hier. Et je dis, mais voilà, moi j'ai contacté 30 éditeurs, tu vois, ça fait 2 mois, donc c'est pas possible qu'il y en ait 15 qui se soient réveillés hier, tu vois. Et du coup, le lendemain 20, le lendemain 25, et ainsi de suite, jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000 par jour.
Ah oui, quand même.
Ouais, et c'est monté comme ça. Et si tu veux, alors nous on voyait ça avec Thomas, on se disait ok, comment on fait pour capter ces gens qui ont l'air intéressés, sachant que c'est une bêta, que le jeu il n'est pas payant, qu'il n'y a que 30% du jeu. Comment on fait pour les garder, pour leur dire ok, maintenant le jeu il est dispo, il est à 100%, voilà. Bref, et toute cette réflexion là, il a fallu qu'on l'amène nous. Le plugin digital, ils n'avaient pas trop d'avis là-dessus, ils ne savaient pas faire. Bref, c'était compliqué. Et puis en gros, pour la faire courte, on a eu comme ça ce moment où les downloads sont montés en flèche sur Android, parce que sur l'App Store, il n'y a pas de notion de bêta public. En tout cas, à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'était sur Android que ça se passait. Nous, pour essayer de capter les joueurs, on a monté un compte Twitter, on a monté un compte Facebook, on a mis des liens dans le jeu pour dire « Ok, suivez-nous, c'est pas encore sorti à 100% hein, » pour essayer de capter ces joueurs-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand on a approché de la sortie, ils nous ont dit « Ok, il faut le traduire au moins en 5 langues pour avoir une chance d'être featuré. Donc c'est 40 000 mots, 42 000 mots, donc ça coûte cher. Même s'ils avaient des deals, si tu veux, avec des boîtes de traduction, on a eu des deals, je crois, à 6 centimes le mot. Enfin, moi, c'est quand même de la thune, quoi, qu'ils ont avancé. Et, parce que du coup, anglais, allemand, espagnol, italien, ça, c'était le deal, en plus du français. Déjà, nous, on se posait des questions, quoi. Italien, vous êtes sûr? Pourquoi pas chinois ou russe, quoi, non? Je sais pas.
Oui, c'est quand même plus pertinent. Bah, ouais. Le marché chinois ouais. Est quand même bien plus...
Bah ouais. Alors après, c'est plus cher, hein. Français-chinois, mais bon. Moi, tu vois, à choisir, j'aurais dit ok, on fait français parce qu'on est qu'en français, anglais parce que anglais, puis chinois, russe, quoi. Et allemand, espagnol, italien, on s'en fout, non? Et arabe, je sais pas, ouais, carrément. Mais ouais, en termes de public, de marché, enfin, voilà, y a des notions d'échelle comme ça où tu te dis, bah, l'italien, franchement, ça me paraît pas pertinent. Bref, et puis. Donc bon, il y a des choix comme ça un petit peu discutables. Et puis nous, tu sais, avec Thomas, on était vraiment en mode ok, bah, ça fait plus de 10 ans qu'ils existent, là, cet éditeur. S'ils sont toujours là, c'est qu'ils savent faire leur boulot. Tu vois, ils ont l'air honnêtes intellectuellement et tout, ok, bah on les suit, quoi, on écoute et on fait un peu comme ils disent, quoi. Et puis donc on a quand même ce momentum sur Android où ça télécharge de fou. Nous on fait notre maximum, on crunch comme pas possible pour se dire, parce qu'on se dit ok, c'est maintenant qu'il faut le sortir le jeu, quoi. Et Playing Digital nous disent non les mecs, c'est sur l'App Store que vous allez faire votre thune, pas sur le Play Store. Nous on a nos stats, vous allez voir sur mobile, 70% de vos bénéfices ça va être sur l'App Store. Et nous on leur dit ouais, mais vous êtes sûr? Parce que nous là on a une communauté de joueurs qui est en train de se monter, c'est sur Android que ça se passe, quoi. C'est sur Android quoi, 10 000 téléchargements par jour. Et ouais, non, mais en fait si vous voulez en gros transformer l'essai et gagner un peu d'argent, il faut sortir sur l'App Store en premier et il faut avoir le featuring. Et on va même leur donner une exclusivité d'un mois pour voilà, comme argument en plus pour obtenir le featuring. Donc on a fait ok, d'accord. Donc on l'a sorti sur l'App Store. Un mois avant le Play Store. Pendant ce temps-là, bah, en fait, on n'était plus mis en avant par l'algo d'Android, ça a dégringolé. Oh, et en gros, si tu veux, je te montrerai la courbe tout à l'heure, on est sorti voilà, juste un mois trop tard. Et, mais en gros, voilà, on aurait pu au moins se payer, tu vois, on ne serait pas millionnaire, tu vois, mais on aurait pu se payer sur les un an qu'on avait passé, quoi. Nous, notre objectif, c'est qu'on se disait, ok, si on peut se payer rétrospectivement un an de SMIC, tu vois, franchement, pour un premier jeu, genre, c'est un succès, quoi.
C'est le jackpot, bah ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le jeu, il est payant en une fois.
Alors, il y a deux. Alors, sur iOS, il est payant, il est en premium. Sur Android, en fait. C'est le début est gratuit et puis ensuite tu as un micro-paiement pour débloquer la suite de l'histoire. Voilà.
Alors je ne sais pas si on y arrive vite ou pas parce que moi j'ai payé tout de suite parce oui. Que je voulais pas être frustrée. Mais
parce que t'es quelqu'un de bien, Marion.
Payer les développeurs indépendants, ben ouais. Il faut qu'ils mangent. Non mais c'est vrai.
Ben oui, non, mais clairement. Ouais.
Et puis en plus, le modèle économique n'est pas bâtard. C'est-à-dire que ce n'est pas bah oui. Payé en permanence pour continuer avec cette frustration.
Exactement. Voilà. Ouais, nous, on a mis un point d'honneur à faire quelque chose de propre de ce point de vue-là parce que, ouais, pour le dire clairement, c'est vraiment un modèle dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, les micro-paiements à gogo, les pubs à regarder. Enfin bon, bref, c'est... Bon, c'est pas quelque chose qu'on a envie de promouvoir, quoi. Donc nous, on se dit clairement, bah voilà, c'est un objet, voilà, c'est comme un livre, c'est comme un film, bah voilà, si tu le payes, quoi. Mais moi, il y a des joueurs qui m'ont contacté sur Facebook, parce que du coup, on a monté une petite communauté, et ou même des commentaires sur le store qui me disaient des gens de un petit peu de tous les pays qui nous disaient, moi j'ai adoré le jeu, par contre je suis désolé, je l'ai craqué. Parce que et moi je leur disais bah écoute franchement je préfère que tu le craques et que tu y joues tu vois et que ouais, tu prends plaisir plutôt que tu t'y joues pas du tout tu vois mais ouais pourtant voilà donc
pourtant il est vraiment pas cher enfin je veux dire là on a pris deux cafés je pense que on est pour plus ouais. Cher que d'acheter ton jeu
ah bah oui c'est sûr ouais enfin. Mais c'est C'est assez terrible parce que y a ce modèle économique du micro-paiement et cette économie de la frustration qui est le modèle le plus développé sur mobile. Et je sais pas, je pense que les gens, dans l'esprit des gens, ils confondent encore un peu, tu sais, le côté Internet, ça doit être gratuit. Avec bah voilà, des créations comme ça, y a un boulot derrière, quoi.
Les gens ne se rendent peut-être pas compte du boulot qu'il y a derrière, de la masse.
Ouais. Oui, c'est ça. Bah oui, il y a peut-être ce côté immatériel qui fait qu'il y a ce biais, quoi. Mais ouais, bon, c'est après ça, tous les développeurs indé connaissent, quoi. Mais genre, voilà, des commentaires. Parce que du coup, sur le store, bah, tu veux avoir une bonne note. Tu vas être bien référencé, puis tu vas avoir une bonne note. Tu vas avoir au-dessus de 4, quoi. En dessous de 4, idéalement en dessous de 4,5. En dessous de 4, ouais, c'est pas bon, quoi, normalement. Et nous, on est en dessous de 4 maintenant, c'est bon, on est descendu en dessous de la barre des. Parce que notamment, t'as des joueurs, ils font ouais, mais ton jeu, il est pas en polonais, c'est traduisionné en polonais, paf, une étoile, tu vois. Et voilà. Ouais, il est pas dispo en russe, tac, tu vois. Et bon, c'est un peu dur, quoi.
Et du coup, vous vous en vivez ou pas de ce jeu?
Alors, pas du tout. On n'en vit pas. On a rompu notre contrat avec Plugin Digital. Au mois de février de l'année dernière. Et donc, du coup, on a récupéré la propriété intellectuelle, et puis voilà, surtout, on ne leur verse plus 30%. Pour être tout à fait transparent, on gagne entre, je sais pas, 100 et 300 balles par mois depuis un an. Bon, voilà, qu'on partage en deux, puis après, on paye nos impôts dessus. Donc, bon, ça fait, on va dire, quelques cafés en plus à la fin de mois. Non, mais voilà, c'est
Et du coup, vous vivez comment? Vous faites du développement web à côté?
Ouais, bah en fait, ouais, on travaille tous les deux. On a un boulot à temps plein, voilà, salarié.
Ouais, comme beaucoup d'indépendants, en fait. Forcément. Et un nouveau projet dans les cartons ou ça va attendre?
Écoute, moi personnellement, je sors un petit peu d'une phase de convalescence, même si c'est sorti il y a plus d'un an vis-à-vis de Somewhere, parce que c'était une expérience. Alors, je regrette pas du tout. Ça fait quelques mois que je réalise un petit peu ce qu'on a fait, tu vois, et que je commence à en être content, parce que la sortie du jeu, ça a été tellement calamiteux, c'était tellement dur, personnellement, physiquement, psychologiquement et tout, que... bon, déjà, moi, Somewhere, je peux plus le voir en peinture, mais alors ça, si tu veux, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs indés, bah, pareil, qui se sont tellement tués à la tâche qu'après leur truc, ils peuvent plus le voir. Mais du coup, ouais, je commence à essayer de relancer d'autres choses, mais j'ai vraiment pas envie de revivre ce que j'ai vécu pendant le développement de Somewhere, parce que ouais, c'était pas la bonne façon de faire les choses, quoi. Mais donc voilà, j'ai un moteur un petit peu rafraîchi sur Unity avec Ink, voilà, qui est un moteur un petit peu narratif, un plugin qui te permet voilà, de créer des histoires en branchement pour essayer de sortir d'autres jeux du genre.
Ouais, tu resterais dans le même...
Oui, là, en fait, c'était mon business plan de départ. Je m'étais dit, ok, je vais faire... Sur papier, c'était bien. Hein. Je vais développer un moteur, je vais sortir un premier jeu avec Thomas, et puis ensuite, moi, je vais m'associer avec d'autres auteurs indépendants. Et moi, j'aurai mon moteur, ils auront à écrire, je retranspose, je mets ça dans le moteur, j'adapte, tu vois, je rajoute peut-être quelques fonctionnalités, mais en gros, voilà. Et donc, du coup, je peux bosser avec plusieurs auteurs indépendants en parallèle, sur plusieurs créations. Et moi, je fournis le moteur, je fournis la plateforme, voilà, je sors le truc sur... j'assure la partie technique, eux, ils assurent l'écriture, et puis on sort ça et on fait 50-50. C'était mon idée. Voilà, sauf qu'en fait, je suis parti sur une techno qui était déjà un petit peu vieillissante, ce qui fait que le moteur aujourd'hui de Somewhere, c'est pas du tout un choix pérenne, quoi. Donc il faut refaire déjà, et rien que pour faire des mises à jour, c'est compliqué.
Justement, Somewhere, il y a eu beaucoup de mises à jour post-sortie, souvent c'est ça qui fatigue, de revenir sur le jeu, de
En fait, si tu veux, il n'y a pas eu de grosses mises à jour, parce qu'en fait, il n'y a pas de nouveau contenu, quoi. On n'a pas rajouté de contenu, c'est pas un format qui s'y prête vraiment, tu vois. Tu vas pas rajouter une scène sur une expérience qui dure 15 jours et qui fait 150 pages, tu vois, une scène dans un coin comme ça, un embranchement que les joueurs vont pas refaire, tu vois, juste parce que tu as fait une mise à jour. Donc c'est pas vraiment un format qui s'y prête. Par contre, on a fait des mises à jour parce qu'on a des joueurs qui l'ont traduit dans d'autres langues, gratuitement.
Oh.
Donc en fait, on a eu l'italien, le turc. Et puis là, j'ai honte, mais ça fait 3 mois qu'il y a des joueurs brésiliens qui ont fini de le traduire en portugais du Brésil et qui disent ah, alors Vincent, tu l'as fait quand la mise à jour? Et moi, bon, ils savent pas, tu vois, que c'était un peu douloureux pour moi et que là, si je veux faire une mise à jour, je rentre dans un tunnel, je sais pas quand est-ce que je ressors, parce que je sais que je peux même plus faire un build, si tu veux, genre les OS ils ont évolué, il y a des contraintes, c'est plus les mêmes niveaux de SDK qu'il faut targeter, enfin on rentre dans des trucs chiants, et en fait en gros voilà, il y a des complications techniques et j'ai pas envie de retourner là-dedans, mais bon, je vais le faire. J'ai pas envie d'y retoucher parce que j'ai peur de me brûler, tu vois, c'est un peu ça. Mais bon, il va falloir que je m'y mette.
Bon, ce qui est rassurant, c'est que la communauté est vraiment géniale.
Ouais, carrément. Bah, les joueurs, on a vraiment eu des joueurs adorables. Je sais pas, mais je pense que Somewhere, si tu veux, la trad, elle est en cours dans peut-être 10 langues différentes, tu vois. Mais parce que j'étais contacté par des joueurs qui me disaient ouais, mais il est pas dispo dans telle langue, si tu veux, je te le traduis. Et donc à chaque fois, je leur disais bah, ok, moi je vois bien, mais je te préviens, c'est super long. C'est un peu, en gros, c'est un roman de 150 pages quasiment. C'est super fastidieux. Et puis, je peux pas te payer, quoi. Donc, c'est toi qui vois. Hein, mais donc, si vraiment t'es sûr, ok. Et donc, je leur partageais le logkit, enfin, en gros, fichier Excel, Google Sheet, où il y avait tout le contenu. Ils voyaient que, toi, l'ascenseur, la petite barre pour défiler, genre, faisait un millimètre. Donc, déjà, en général, ça calme. Et puis, je sais pas, j'ai une colonne par langue. Et en gros, voilà, il y a eu plein de débuts de traduction. Il y a beaucoup de gens qui sont pas allés au bout, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, quand je les sentais vraiment motivés, ok, je leur ajoutais une colonne et je leur donnais le lien et je dis bah ok, vas-y, fais-le si tu veux,
fais-toi
plaisir et surtout bon courage.
Tu me disais que tu avais eu quelques petites remarques.
Ouais bah si tu veux, dans les choses qui sont remontées négatives, si tu veux, il y a le fait que c'est pas traduit dans toutes les langues du monde. Ça, c'est quand même assez scandaleux pour un jeu à 3 balles. et puis, voilà, le modèle économique sur Android qui est pas bien compris, mais parce que je pense qu'on n'est pas assez clair, où les gens téléchargent, ils pensent que c'est gratuit, ils commencent, et puis au bout de 30% du jeu, on leur dit bah écoute, maintenant si tu veux continuer, il faut payer 3 balles. Alors je dis 3 balles, nous on a adapté le prix en fonction des pays, en fonction du niveau de vie. Encore un truc que j'ai demandé à Plugin Digital en leur disant, moi, il y a une Turque, elle nous a traduit le jeu et elle m'a dit, franchement, ton jeu, il est trop cher. Et du coup, effectivement, si tu veux, quand on met ton jeu à 3 euros, lui, il fait une conversion bête et méchante dans toutes les devises du monde, tu vois. Sauf qu'en fait, bah, 3 euros en France, ça fait je sais pas combien de lire en Turquie, si tu veux, mais peut-être que ça correspond pas du tout, si tu veux, au prix que ça devrait valoir, quoi. Mm-hmm. Et donc moi j'ai demandé à cette nana, cette traductrice, ok, bah, ça devrait être quoi le prix du jeu en turc, et elle m'a dit, et voilà, bon, c'est encore un truc que j'aurais demandé qu'ils ont jamais fait, et je leur dis, mais je comprends pas, vous publiez sur mobile et jamais vous adaptez le prix en fonction des niveaux de vie, en fonction des monnaies, en fonction de, voilà, alors que tu vois, bon, tu le fais une fois, c'est chiant, mais voilà, je sais pas,
mais
c'est fait, quoi. Puis après t'as, en plus tu peux faire un template, un modèle, et tu l'appliques sur tous tes jeux, enfin bon, bref, bon, ça pourrait se faire assez facilement, mais bon, ils avaient pas l'air de trouver ça intéressant, donc moi je l'ai fait manuellement, un peu à l'arrache, quoi, en fonction de mon feeling, et puis en regardant
des retours que t'avais,
des retours que j'avais, ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième remarque négative, c'est voilà, ok, bah je savais pas que c'était payant, tu m'as fait perdre tant de temps, parce qu'en gros voilà, moi j'ai joué, puis maintenant en fait je peux pas aller au bout, donc c'est dégueulasse, c'est pas honnête, voilà, donc ça, mais bon, j'imagine qu'on n'est pas assez clair,
mais tout travail mérite salaire.
Ouais, mais bon, ça c'est difficile à entendre, j'ai l'impression, pour certains, pour les gens encore. Et le troisième truc, effectivement, la troisième remarque, c'est trop long, les temps d'attente. C'est trop long. Alors effectivement, c'est difficile de trouver un équilibre, si tu veux, entre le contenu, voilà, les interactions que tu vas avoir dans le jeu, et puis ensuite un temps d'attente en fonction de où est-ce que tu en es dans l'histoire. Parfois c'est 5 minutes, parfois c'est 5 heures. Voilà. Et bon, entre les deux, voilà, il y a un petit peu de tout, mais ça dépend de où est-ce qu'on en est dans l'histoire et ainsi de suite. Et puis il y avait ce côté réaliste, nous, qu'on voulait rendre avec Thomas. Donc on a beaucoup réfléchi sur cette notion d'équilibre entre le contenu, les temps d'attente, enfin cette notion de rythme. Bon voilà, on a essayé de faire quelque chose de correct, mais ouais, c'est assez frustrant. Faut croire, mais nous, on pense. Alors on a eu un débat, pendant toute la durée du dev avec Thomas. Ou ok, est-ce qu'on peut désactiver les temps d'attente ou pas, quoi. Parce qu'en gros, bah, tu vois, c'est un toggle, hein, dans les paramètres du jeu, hein, en vrai. Donc c'est facile, hein. Parce que nous, bien sûr, que quand on l'a développé, on n'attendait pas 5 heures.
Vous n'attendiez pas 5 heures,
oui. On joue même en accéléré, les textes, ils arrivent super vite, il n'y a pas de notion de... Voilà. Donc on peut le faire, quoi. Et moi, ayant joué à Lifeline, je suis persuadé que en fait, ces temps d'attente, c'est un peu le sel du jeu, tu vois. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des temps d'attente que ça fonctionne. Parce qu'en vrai, sinon, tu joues à Somewhere, tu le finis en 2h30, tu vois. Ça, faut gérer ça, se lit vite, voilà. Parce que ça fait 150 pages, parce qu'il y a plein d'embranchements. Mais toi, tu prends une
et
route.
Après, voilà. Rien n'empêche de refaire ce que j'ai fait d'ailleurs.
Hein. Ouais.
Essayer de choisir d'autres, d'autres chemins.
Mais du coup, c'est un jeu pour moi qui perd beaucoup d'intérêt si t'as pas les temps d'attente. Après, par contre, quand tu l'as... Là, on a encore copié un petit peu le modèle de Lifeline. Le 1, quand ils l'ont sorti, tu avais les temps d'attente comme ça. Et une fois que c'était arrivé au bout, tu pouvais les désactiver. Et du coup, ça te permettait de réexplorer le jeu, différents embranchements, avoir d'autres fins, et ainsi de suite. Donc, on a ce modèle-là également. Mais il y a plein de joueurs qui nous disent « Ouais, temps d'attente, c'est trop long, ou alors il faudrait pouvoir les désactiver. » Mais voilà. Mais nous, on dit non.
Alors, tu dirais quoi à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans le jeu vidéo indé le conseil?
Bah déjà, je leur dirais bonne chance. Non, bah, je leur dirais commencer petit, quoi. Ouais. Commencer petit, c'est-à-dire, en fait, faites des jams, déjà. Faites des protos, mais vous lancez pas dans un projet, voilà. Moi, j'ai eu des étudiants, j'ai discuté avec des jeunes, ouais, en fait, moi, je voudrais développer un MMORPG, tu vois. Bah non.
Ne fais pas ça.
Fais pas ça. Parce que t'arriveras jamais à 10% de ton truc, quoi, je veux dire. Puis tu vas... Non, non, c'est bête. Non, non, il faut vraiment... penser petit, puis voilà, comme ça il y a les étapes par étapes. Il faut se donner en gros un temps donné, quoi. Il faut se dire, ok, je développe pendant 3 mois, quoi. Et puis voilà, au bout de 3 mois, j'arrête, mais parce que tu peux toujours, si tu veux, continuer, quoi. Ou voilà, 3 mois, c'est bien, je pense, pour démarrer, faire des protos, quoi. Et puis une fois qu'on se sent à l'aise, qu'on a pris de l'expérience, toutes les erreurs qu'on a faites, on les aura fait sur ces petits protos-là. Et puis voilà, une fois qu'on a acquis un petit peu d'expérience et qu'on sait dans quel piège il ne faut pas tomber, éventuellement, si on le sent, et puis si on a l'opportunité de pouvoir le faire sur une durée plus longue, parce que bon, il faut quand même pouvoir vivre à côté, bah là, ouais, on peut se lancer, quoi. Mais,
Parce qu'un an et demi, c'est pas si long, hein. Pour développer un jeu.
Bah non, c'est pas si long. Alors après, on pourrait se dire que c'est long parce que si tu veux, il y a pas d'animation, il y a pas de graphisme, et ainsi de suite. Mais moi, je pense qu'idéalement, en fait, si je devais refaire ce mois aujourd'hui, bah il faudrait qu'on le fasse en 6 mois, quoi. Au-dessus, ce serait pas raisonnable. Parce que le problème, c'est que si tu veux en vivre, plus tu passes de temps dessus, bah plus il faut que ton jeu il ramène de l'argent pour pouvoir te payer, tu vois, rétroactivement sur le temps que t'as passé, quoi. Ou en tout cas te payer, voilà, de quoi pouvoir vivre pour faire un deuxième jeu, et ainsi de suite, quoi. Donc plus tu passes du temps, plus ça va être difficile de le rentabiliser. Et puis également, la difficulté aussi dans le cadre de Somewhere, c'est que bah du coup c'est que du texte, ok, mais si tu veux toucher plus de gens, il faut le traduire, et puis ça a un coût. Donc faire un jeu textuel de cette taille-là, c'est, y a aussi cette problématique-là. Si vous faites un jeu textuel, faut pas dépasser 30 000 mots, je pense, idéalement. Au-dessus, c'est un peu trop. Puis bah faut le faire français-anglais. Et puis ensuite, en fonction des retours, bah éventuellement vous...
D'autres langues.
D'autres langues. Mais voilà, faut pas le traduire en allemand, en espagnol et tout ça dès le début. C'est non, faut pas.
Et si je vais te demander un jeu totem, un peu. Totem, j'adore.
Un jeu totem.
Ton jeu.
Mon jeu totem.
Ouais. Le jeu qui te. Si tu devais parler que d'un jeu, en garder un, ce serait lequel?
Je pense que ce serait Faster Than Light. Faster Than Light, pour moi, c'est un bijou, quoi. C'est. Il y a cette narration. Cette narration un petit peu aléatoire, comme ça. Le côté procédural, ok, des secteurs qu'on va traverser, donc qui sont jamais les mêmes, donc les événements comme ça qui se déclenchent aléatoirement, et puis aussi un petit peu cette narration avec des choix qu'on doit faire. Le gameplay qui est très très bien, la musique, la bande-son qui est incroyable, et la rejouabilité, enfin le côté roguelite de la chose. Et puis voilà, y a... tout ça fait qu'en fait t'as une vraie narration émergente en plus, c'est-à-dire que tu fais jamais 2 fois le même run, et puis voilà, tu te rappelles d'aventures comme ça que tu as vécu, enfin moi, que toi, que j'ai vécu il y a 4 ans, un soir tout seul chez moi, et voilà, sur une run tu vois, plus épique que les autres encore, et puis du coup, tu t'en rappelles hein, vraiment comme si c'était un truc que tu avais vécu, quoi. Et ouais, des jeux, c'est un jeu super marquant pour moi. Faster Than Light, j'y joue encore régulièrement.
Bah, merci beaucoup.
De rien, Marion, merci.
Cet épisode d'Indiscopie est donc terminé. Merci Vincent Salaud encore une fois. Coucou à Thomas Gosselin, dont on aura beaucoup parlé dans cet épisode. Merci encore à Mathieu Casanas pour l'habillage sonore de cette émission. On se retrouve, nous, pour une prochaine rencontre, cette fois direction Bordeaux, la ville où la chocolatine et le cannelé se marient à merveille à côté du café. On va discuter avec le studio Novabox.
Indiscopie.